Bonjour Marino. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 14, Le pouvoir des instruments de Sri Aurobindo, la synthèse des yogas. Numéro 3, le yoga de la perfection de soi, traduit de l'anglais par mère. L'être physique de l'homme a toujours été considéré comme un grand obstacle pour les chercheurs de perfection. L'habitude voulait que l'on s'en détournât avec mépris, refus ou aversion, que l'on cherchât à réprimer complètement ou autant que possible le corps et la vie physique. Mais telle ne peut pas être la méthode correcte d'un yoga intégral. Le corps nous est donné comme un instrument nécessaire à la totalité de nos œuvres, et nous devons nous en servir, non le négliger, ni l'abîmer, ni le réprimer, ni l'abolir. S'il est imparfait, récalcitrant, obstiné, les autres parties le sont aussi. L'être vital, le cœur, le mental et la raison. Comme eux, il doit être changé et perfectionné. Et comme eux, il doit subir une transformation. De même que nous devons nous créer une vie nouvelle, un nouveau cœur, un nouveau mental, nous devons de même, dans un certain sens, nous construire un corps nouveau. La première tâche de la volonté sur le corps est de lui imposer progressivement une nouvelle habitude dans tout son être. Toute sa conscience, toute sa force, et toute son action intérieure et extérieure. Il doit apprendre à être entièrement passif. D'abord, entre les mains des instruments supérieurs, mais finalement, entre les mains de l'esprit et de sa Shakti, qui dirige et inspire. Il doit prendre l'habitude de ne pas imposer ses limites aux éléments plus nobles et adapter son action et sa réponse à leurs ordres. Élaborer une notation plus haute, pourrait-on dire, une gamme supérieure de réponses. Pour le moment, la notion du corps et la conscience physique a un pouvoir déterminant considérable sur la musique produite par cette harpe humaine de Dieu. Les notes que nous recevons de l'esprit, de l'âme psychique, de la vie plus vaste derrière notre vie physique, ne peuvent pas entrer librement, ni rendre leur haut accent puissant et authentique. Cette condition doit être renversée. Le corps et la conscience physique doivent prendre l'habitude de consentir à ces accents supérieurs et de se laisser modeler par eux, et non le contraire. Les parties plus nobles de la nature doivent déterminer la musique de notre vie et de notre être. Maîtriser le corps et la vie par le mental, par la pensée et par sa volonté est le premier pas de ce changement. Tous les yogas supposent une maîtrise de ce genre poussée à un très haut point. Mais après, il faut que le mental lui-même cède la place à l'esprit, à la force spirituelle, au supramental et à la force supramentale. Et finalement, le corps doit acquérir le parfait pouvoir de garder la force que l'esprit lui insuffle et de contenir son action sans la laisser déborder ni la gaspiller et sans craquer lui-même. Il doit être capable de se laisser emplir et utiliser puissamment, par n'importe quelle intensité de la force spirituelle ou du mental supérieur ou de la vie, sans qu'aucune partie de l'instrument mécanique s'agite, se bouleverse ou soit brisé ou endommagé par cet influx ou cette pression. Il arrive souvent que le cerveau, la santé mentale et vitale, soit lésée chez ceux qui se livrent déraisonnablement à des pratiques yogiques sans la préparation nécessaire et qui, par des moyens illicites ou par imprudence, invitent un pouvoir qu'ils ne peuvent pas supporter intellectuellement, vitalement ni moralement. Puis, ainsi rempli, le corps doit être capable de fonctionner normalement, automatiquement, exactement et conformément à la volonté de cet agent spirituel ou autre, encore inaccoutumé, sans déformer, diminuer, ni mal traduire son intention et sa coulée. Cette faculté de contenir Dharana Shakti dans la conscience physique, dans l'énergie et le mécanisme physique est la Siddhi, ou la perfection du corps, la plus importante. Ces changements se produiront avec un corps qui sera un parfait instrument de l'esprit. La force spirituelle sera capable de faire ce qu'elle veut et comme elle veut, dans le corps et par le corps. Elle sera capable de mener une action mentale illimitée ou supramentale à un stade supérieur, sans que le corps dénature l'action ni la trahisse par la fatigue, incapacité ou inaptitude. Elle sera capable aussi de déverser dans le corps une pleine marée de force vitale et de mener une vaste action avec la joie d'un être vital devenu parfait et sans cette querelle et cette disparité qui marque les relations habituelles des instincts vitaux ou des impulsions vitales avec l'instrument physique insuffisant dont ils sont obligés de se servir. Et elle sera capable aussi de mener une action complète dans l'être psychique spiritualisé sans que celle-ci soit falsifiée, dégradée, ni d'aucune façon gâtée par les instincts inférieurs du corps. Elle se servira de l'action et de l'expression physique comme du libre notation de la vie psychique supérieure. Enfin, le corps lui-même sentira la présence d'une immense force sustentatrice, d'une vigueur et d'une énergie inépuisable, la puissance d'une force expansive et organisatrice, d'une légèreté, d'une célérité, d'une adaptabilité de l'être nerveux et physique, d'un pouvoir de tenir et de répondre dans toute la machine physique, et tous ses ressorts moteurs, ce dont elle est incapable maintenant, même à son état le plus vigoureux et le meilleur. Cette énergie ne sera pas essentiellement une force extérieure, physique ou musculaire. Elle sera tout d'abord de la nature d'un pouvoir vital, une force pranique sans limite. Ensuite, derrière cette énergie pranique et l'utilisant, se manifestera un pouvoir de volonté supérieur ou le pouvoir suprême qui agira dans le corps. Le fonctionnement de la Shakti dans le corps ou dans les formes et la condition de toute action. Même de l'action physique la plus inanimée en apparence. Comme le savaient les anciens, c'est le prana universel qui, sous des formes diverses, soutient ou actionne l'énergie matérielle de toutes les choses physiques, depuis l'électron et l'atome, le gaz, jusqu'au métal à la plante, l'animal et l'homme physique. Que cette Shakti pranique puisse agir plus librement et plus puissamment dans le corps, telle est la tentative qu'ils sachent ou non de tous ceux qui s'efforcent à une perfection supérieure du corps ou dans le corps. L'homme ordinaire cherche à commander mécaniquement cette Shakti pranique par des exercices physiques ou par d'autres moyens corporels. Le Hatha Yogi, d'une façon plus poussée et plus flexible, mais encore mécaniquement, s'y efforce par les asanas et le pranayama. Mais pour notre dessein, il est possible de la commander par des moyens plus subtils, plus essentiels, plus souples. D'abord, par une volonté dans le mental qui s'ouvre pleinement à la Shakti pranique universelle, où nous puisons et qui fait activement appel à elle pour fixer plus fortement et plus solidement sa présence et son action dans le corps. Ensuite, par cette volonté dans le mental, mais qui s'ouvre au pouvoir de l'esprit au lieu de la Shakti universelle et qui fait appel à une énergie pranique supérieure d'en haut. Une force pranique supramentale. Enfin, dernier pas, par la suprême volonté supramentale de l'esprit, qui entre dans le corps et assume directement la tâche de la perfection du corps. En fait, vraiment, c'est toujours une volonté dedans qui actionne l'instrument pranique et le double d'efficacité même quand elle se sert des moyens qui semblent purement physiques. Mais au début, elle dépend de l'action inférieure. Quand nous nous élevons, la relation se renverse graduellement. La volonté est alors capable d'agir de son propre chef et de manier le reste comme un simple instrument subordonné. Alors je termine, il y en a très peu. La plupart des hommes ne sont pas conscients de cette force dans le corps, ou ils ne peuvent pas la distinguer de l'autre forme d'énergie plus physique qu'elle anime et utilise comme véhicule. À mesure que la conscience se fait plus subtile par la pratique du yoga, nous pouvons commencer à percevoir la mer de Shakti pranique qui nous entoure, à la sentir avec la conscience mentale, la toucher concrètement avec le sens mental voir ses courants et ses mouvements, la diriger et agir sur elle immédiatement par la volonté. Mais aussi longtemps que nous ne pouvons pas la percevoir de la sorte, nous devons avoir une foi pratique, ou du moins expérimentale, en la présence et en le pouvoir de la volonté de parvenir à une maîtrise et à un emploi plus vaste de la force pranique. Il est nécessaire d'avoir la foi, Shraddha, la foi que le mental a le pouvoir d'imposer sa volonté à l'état et à l'action du corps, comme le font ceux qui guérissent les maladies par suggestion et par la volonté ou par une action mentale. Mais cette maîtrise, nous ne devons pas chercher à l'obtenir uniquement à telle ou telle fin limitée, mais d'une action courante, comme le pouvoir légitime de l'action intérieure et supérieure sur l'instrument extérieur et inférieur. Cette foi est combattue par nos vieilles habitudes mentales, par notre expérience normale, pratique, de l'impuissance relative du mental à commander notre organisme actuel, imparfait, et par la croyance contraire du corps et de la conscience physique, car eux aussi ont une Shraddha limitée qui leur est propre et qui résiste à l'idée du mental quand ils cherchent à imposer à notre organisme la loi d'une perfection plus haute, encore inatteinte. Voilà, Sri Aurobindo. Alors, je dépose cette lecture au pied de Sri Aurobindo et de Douce Mère. Ganga Lakshmi. Merci, Renaud.